Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Qui sont les militants de Greenpeace? Voici le troisième volet d'une série de portraits consacrés aux bénévoles de la célèbre association de protection de l'environnement. On les croise parfois déguisés en abeilles ou en ours polaires, toujours un tract à la main, quand ils ne tiennent pas une banderole. Mais on connaît moins les hommes et les femmes qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre cette ONG. Aujourd'hui, c'est le portrait de Mario Mullet que nous vous proposons. Référent énergie-climat, il est l'un des plus anciens membres du groupe local de Greenpeace Nice. Il nous raconte sa première rencontre avec l'ONG.
Eh bien, j'y suis arrivé par les baleines, en fait. Ça fait partie de l'évolution de ma carrière, entre guillemets, écologiste. J'ai commencé par la défense des animaux. Et ça devait dater de 1985, je crois, ou 84. Il y avait une campagne de Greenpeace pour protéger les baleines. Et c'est à ce moment-là que j'ai adhéré au groupe de Greenpeace.
Et avant, vous militiez déjà ailleurs pour la protection des animaux ?
Je militais, mais sans être vraiment dans des associations actives. Disons, j'ai toujours été adhérent d'associations, des associations très classiques, la SNPN, la LPO. Ce sont toutes des associations qui défendent les animaux. C'est quelque chose qui est un petit peu précurseur de l'écologie. Si on défend les animaux, on défend leur survie, c'est-à-dire leur habitat, et tout ce qui peut porter atteinte à leur habitat. Donc c'est de l'écologie, ça devient de l'écologie.
Donc ça nous ramène en 1984-85, ici à Nice ?
Non. J'étais adhérent de Greenpeace France et je suis rentré dans le groupe local à peu près un an après son ouverture. C'était il y a 25 ans à peu près.
Mais les groupes locaux ne sont pas des entités indépendantes ?
Non, les groupes locaux sont des entités peuplé de bénévoles. Et le siège social, ce sont des professionnels. Et nous sommes rattachés en termes de politique d'action et en termes de politique d'analyse des situations au siège social qui est situé à Paris.
Alors racontez-nous un petit peu quelles ont été vos premières actions au sein de Greenpeace.
Bien, si vous voulez, dans Greenpeace, il y a divers types d'actions. Il y a les actions soft. Il y a ensuite des interventions plus musclé. Et les dernières strates, ce sont les activistes. Il y a très très peu d'activistes dans les groupes locaux, ils sont choisis, ils ont la conscience de ce qu'ils font, surtout. Ils savent que ce n'est pas toujours facile, que ça peut être, il peut y avoir des retombées judiciaires, il peut y avoir des retombées financières également, donc ils sont triés sur le volet, et surtout ils sont volontaires. Et c'est pour ça qu'il y a tout un réseau d'activistes au niveau des groupes locaux français. Lorsqu'il y a une action, c'est chaque fois le siège qui appelle les activistes. Donc ce sont des commandos. Mais il n'y a aucune... on peut participer comme on ne peut ne pas participer.
D'ailleurs, même au sein du groupe local, c'est pareil. Lorsqu'une action dite douce ou soft est organisée, on peut choisir d'y participer ou pas.
Tout à fait. De toute façon, les bénévoles sont tout à fait volontaires, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas y aller pour des raisons souvent il faut se projeter un petit peu en avant, certains n'aiment pas ça, il faut prendre la parole ou il faut discuter ou il faut se faire insulter, c'est déjà arrivé. Ceux qui n'aiment pas ça ne le font pas. Il y a d'autres types d'actions, il y a des enquêtes, il y a des tas d'aides que l'on peut fournir à un groupe local sans qu'on soit vraiment investi.
Aujourd'hui, très simplement, pour les auditeurs, comment fonctionne le groupe local de Greenpeace Nice ?
Bien, il y a deux co-coordinateurs, donc, qui font une action directive, disons. Ils n'aiment pas le terme de chef, mais malgré tout, ce sont des coordinateurs, ce sont des chefs, quoi. Ils sont, la plupart du temps, ils devraient être votés, mais comme le poste n'est pas enviable, parce qu'il faut être disponible, il faut faire le relais entre le siège et les militants du groupe local. Il faut animer le groupe local, c'est pas toujours facile. Donc lorsqu'il y a un volontaire, on le prend tout de suite.
L'énergie, l'ambiance et la motivation du groupe local dépend peut-être, j'imagine, aussi de cette personnalité du coordinateur. Depuis que vous avez intégré le groupe local de Nice vers les années 90, on va dire, combien de coordinateurs se sont enchaînés ?
Une dizaine.
Est-ce qu'on sent du coup des différences notables pendant ces périodes-là ?
On sent des différences au niveau de l'animation, au niveau de l'enthousiasme, disons. Mais malgré tout, les actions fortes nous sont commandées par le siège social. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt l'implication, c'est le charisme et la personnalité du coordinateur qui ameute ses sympathisants, qui va faire que les actions sont plus ou moins brillantes ou plus ou moins suivies par beaucoup de monde.
Combien de militants aujourd'hui au sein du groupe local de Nice ?
C'est difficile à dire parce que je crois qu'il y a une centaine de personnes qui sont des affiliés, disons. Mais il y a vraiment un noyau dur d'une vingtaine, maximum 25 personnes.
Et depuis votre arrivée, ça a toujours été un nombre à peu près constant ?
Oui, oui, oui. Il y a des fluctuations, mais globalement, ça reste entre, mettons, 10 et 20 personnes qui font les référents, disons, ce sont vraiment les pions essentiels qui co-animent le groupe avec le coordinateur.
Puisque, on le rappelle, il y a différentes campagnes au sein de Greenpeace. Est-ce que vous pouvez nous les citer ?
Alors, il y a l'énergie climat, l'agriculture qui regroupe les pesticides et puis les OGM.
Alors, c'est marrant, avant c'était toxique et OGM.
Voilà, mais ça c'est très évolutif. C'est devenu une campagne globale. Il y a océan, il y a forêt.
Et nucléaire fait partie maintenant de climat-énergie ?
Oui, oui, nucléaire fait partie de climat-énergie. C'est un mode de production comme un autre, comme le solaire.
Il y avait une campagne déchets à un moment ?
Il y avait une campagne déchets, mais elle n'existe plus.
Donc finalement, il y en a un peu moins, ça s'est concentré ?
Ça se concentre, c'est selon les directives plus ou moins ou les analyses faites par Greenpeace France, qui lui-même, vous savez, c'est une pyramide, qui lui-même reçoit, pas des directives, mais enfin des canalisations, disons, de la part de Greenpeace International. Et c'est une assemblée générale qui définit les grands thèmes selon les circonstances, selon la nature des choses. Donc c'est vrai que c'est évolutif, mais globalement il y a des campagnes qui restent. La campagne énergie va rester, la campagne océan va rester. Ce sont
Elle est mythique celle-là, c'est une des fondatrices.
Elle est mythique et puis elle est... on ne peut pas l'oublier, quoi. C'est pas possible, les problèmes restent. Que ce soit le nucléaire, l'océan, les forêts. Vous avez certaines campagnes qu'on va dire secondaires ou qui peuvent être incluses dans des campagnes plus générales, comme les déchets, les OGM ou les toxiques. Mais la campagne agriculture va rester, elle va changer de nom peut-être, mais elle va rester comme les autres, le fond de travail de Greenpeace.
Quelle est l'expérience la plus marquante que vous ayez vécue au sein de Greenpeace jusqu'à présent ?
C'est très difficile à dire parce que j'ai un caractère qui m'a permis d'avoir la longévité. Et je n'ai pas de point véritablement marquant, ou alors j'en ai plusieurs. Simplement parce que j'ai fait mienne la fameuse phrase de Badinter. Badinter avait dit que la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Et même en France, il faut combattre pour la démocratie. Donc, quand un problème est réglé d'un point de vue écologie, je continue le combat parce qu'en fait, il n'est jamais réglé. Il y a toujours, toujours des possibilités que la situation ancienne revienne. Un bon souvenir, ce sont les gens qui nous remercient quelquefois de nous occuper de certains problèmes parce qu'eux ne peuvent pas le faire, soit par méconnaissance, soit parce qu'ils n'osent pas le faire, soit parce qu'ils ne sont pas assez courageux. Alors, on m'a souvent dit qu'on était courageux.
Vous pensez que c'est vrai ?
Mes collègues activistes le sont, probablement. Nous ne sommes pas exposés comme ils le sont eux-mêmes, donc fatalement, nous sommes moins courageux. Voilà.
Éventuellement, une expérience désagréable ?
Une expérience désagréable, c'est d'avoir raté une action, soit par des circonstances extérieures, comme la météo, par exemple, où nous attendions beaucoup de monde et puis ils ne sont pas venus, soit parce que nous nous sommes trompés sur l'évaluation du matériel qu'il fallait, etc. C'est une action ratée, voilà, ça c'est un mauvais souvenir, c'est déjà arrivé.
Mais ça ne vous décourage pas, vous allez continuer ?
Je continue depuis là, je suis écologiste depuis l'âge de 8 ans à peu près.
Pas de raison que ça change ?
Et je me suis heurté à pas mal d'adultes à l'époque, et je me heurte maintenant toujours au niveau des adultes. Paradoxalement, les enfants sont plus réceptifs. Il y a un problème avec eux aussi, il faut qu'ils baignent dans une culture de l'écologie pour que les sentiments qu'ils ont lorsqu'ils sont enfants continuent à exister lorsqu'ils sont adultes. Donc c'est un combat de tous les jours et c'est un combat perpétuel.
Et ce n'est pas pour rien que l'on appelle aussi les militants de Greenpeace les combattants de l'arc-en-ciel. Militer, c'est aussi combattre, combattre les idées reçues, le fatalisme, les injustices et les torts causés à notre environnement par méconnaissance, ambition ou appât du gain. Aujourd'hui, en France, ce sont 23 groupes locaux et plusieurs antennes un peu partout sur l'Hexagone qui accueillent des bénévoles passionnés, bien décidés à passer de l'opinion à l'action. Alors, vous aussi, n'hésitez pas et renseignez-vous auprès des groupes locaux pour mettre vos idées en pratique.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.